Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nine Nar Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « La mer au temps des dinosaures » est un ouvrage de vulgarisation scientifique publié chez Belin en 2021 et consacré à l'univers marin du Mésozoïque entre 252 et 66 millions d'années avant notre ère. Rédigé par plusieurs paléontologues dont Peggy Vincent, Nathalie Bardet, Alexandra Houssaï et Stéphane Jouve, et illustré par Alain Beneteau, il propose une exploration accessible mais rigoureuse des écosystèmes aquatiques à l'époque des dinosaures. Le livre ne s'intéresse pas aux dinosaures terrestres eux-mêmes comme sujet central, mais aux animaux marins qui partageaient leur temps géologique, notamment les reptiles marins, les grands prédateurs, les requins géants et d'autres formes de vie fossiles. Son objectif est de faire comprendre comment ces mondes océaniques se sont diversifiés, adaptés aux grandes crises biologiques et intégrés dans l'histoire évolutive du vivant. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, un panorama du monde marin du Mésozoïque. Le livre situe d'abord le lecteur dans une longue durée géologique, depuis la grande transition du début de l'ère secondaire jusqu'à sa fin. Cette mise en perspective est essentielle, car elle permet de comprendre que la mer des temps des dinosaures n'est pas un décor fixe, mais un ensemble d'écosystèmes qui se transforment en fonction des crises biologiques, des changements climatiques et de l'évolution des groupes vivants. En adoptant ce cadre chronologique, l'ouvrage replace les espèces marines dans une histoire naturelle plus large, où l'apparition, la disparition et la diversification des lignées deviennent lisibles. Cette approche donne du sens aux fossiles présentés, ils ne sont pas seulement spectaculaires, ils témoignent de continuité et de rupture dans l'histoire de la vie. Le livre se distingue ainsi par une vision d'ensemble qui relie les formes de vie marine à l'échelle des temps géologiques, plutôt qu'à une simple succession d'animaux remarquables. Deuxièmement, les reptiles marins comme acteurs majeurs des océans anciens. L'un des apports centraux du livre est de montrer que les mers du Mésozoïque étaient dominées par des reptiles marins extrêmement diversifiés, souvent très différents de ce que le public imagine spontanément. L'ouvrage met en avant des groupes adaptés à la nage, à la prédation et à des modes de vie entièrement aquatiques, ce qui permet de comprendre comment les reptiles ont occupé des niches écologiques comparables à celles de grands prédateurs marins actuels. L'intérêt scientifique de ce thème est double. D'une part, il souligne les convergences évolutives entre formes anciennes et modernes. D'autre part, il rappelle que l'eau a été un milieu d'expérimentation évolutive majeur, où des lignées terrestres sont revenues vers un environnement marin. En insistant sur cette idée de retour à l'eau, les auteurs donnent au lecteur une clé de lecture simple mais solide pour comprendre les transformations anatomiques, locomotrices et écologiques de ces animaux. Troisièmement, des prédateurs géants et des chaînes alimentaires complexes. Le livre ne se contente pas de présenter des créatures spectaculaires. Il montre aussi comment elles s'inséraient dans des réseaux trophiques complexes. Les grands prédateurs marins, les requins géants et d'autres animaux de grande taille ne sont pas décrits comme des curiosités isolées, mais comme les sommets d'écosystèmes structurés, dépendants de proies, d'habitats et d'équilibres écologiques précis. Cette perspective est importante, car elle transforme l'image simplifiée d'une mer peuplée de monstres en une vision plus scientifique des relations entre espèces. Le lecteur comprend que la taille, la morphologie et les comportements de prédation sont liés à des contraintes évolutives et environnementales. Le livre fait ainsi ressortir les logiques d'adaptation qui expliquent la diversité des stratégies de chasse, de protection et de survie. Ce traitement de la prédation marine donne de la profondeur au sujet, en reliant les fossiles à des mécanismes écologiques concrets plutôt qu'à leur seul aspect spectaculaire. Quatrièmement, le comportement fossilisé, une fenêtre sur la vie réelle. Un autre intérêt du livre est d'évoquer des scènes fossiles qui suggèrent non seulement des anatomies, mais aussi des comportements. Les exemples mentionnés, comme des animaux morts au cours d'un combat, des œufs couvés en situation de catastrophe ou des insectes du Jurassique surpris en pleine activité, rappellent que la paléontologie ne reconstitue pas seulement de squelettes, elle tente aussi de lire dans les fossiles les traces d'action, d'interaction et d'instants figés. Cette dimension est particulièrement précieuse pour le grand public, car elle montre que les sciences du passé peuvent accéder à des aspects très concrets de la vie ancienne. Le livre met donc en avant une paléontologie dynamique, attentive aux gestes, aux milieux et aux circonstances de conservation. En donnant une place à ces indices comportementaux, il enrichit la compréhension des animaux fossiles et évite une approche purement descriptive. Le fossile devient une source d'information sur l'écologie et la biologie, pas seulement sur la forme. En dernier lieu, une vulgarisation scientifique fondée sur des spécialistes et l'illustration, l'ouvrage se distingue aussi par sa forme éditoriale. Il associe plusieurs paléontologues reconnus à un travail d'illustration qui rend visible des animaux souvent mal connus du grand public. Cette combinaison entre expertise scientifique et iconographie soignée est importante dans un livre de vulgarisation, car elle permet de rendre lisibles des notions complexes sans les simplifier abusivement. Le texte s'appuie sur des connaissances solides, tandis que les images facilitent la perception des morphologies, des environnements et des échelles. Dans un domaine comme la paléontologie marine, où l'on ne dispose que d'indices fragmentaires, l'illustration joue un rôle méthodologique autant que pédagogique, elle aide à reconstruire une cohérence visuelle à partir de données fossiles. Le livre prend ainsi place dans une catégorie de vulgarisation exigeante, où l'objectif n'est pas seulement d'émerveiller, mais d'expliquer comment la science reconstruit un monde disparu à partir de preuves matérielles. En conclusion, La mer au temps des dinosaures s'adresse à un public large, depuis les lecteurs curieux de préhistoire jusqu'aux amateurs de paléontologie qui souhaitent une synthèse fiable sur les milieux marins du Mésozoïque. Il sera particulièrement utile à ceux qui veulent dépasser l'image classique des dinosaures terrestres pour comprendre l'autre grande face du monde ancien, celles océans, des reptiles aquatiques et des grands prédateurs marins. Son principal atout est d'unir rigueur scientifique, clarté d'exposition et force visuelle. Là où beaucoup d'ouvrages sur les dinosaures se concentrent sur les animaux terrestres, celui-ci propose un déplacement du regard vers les mers, ce qui renouvelle réellement le sujet. Il offre aussi un bon niveau de contextualisation évolutive, en liant les espèces à l'histoire géologique et aux grandes crises biologiques. Pour qui cherche un livre à la fois instructif, accessible et solidement documenté, il constitue une référence originale dans la vulgarisation sur la vie préhistorique. Si vous souhaitez soutenir Peggy Vincent, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.